Bienvenue sur Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réuni. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi les outils, les méthodes et les apprentissages clés d'un entrepreneur à succès. Pour ne pas rater les prochaines, inscrivez-vous gratuitement sur www.entreprendredanslamode.com. Enfin, si vous souhaitez sponsoriser ou co-créer du contenu avec Entreprendre dans la mode, c'est possible. Là encore, rendez-vous sur le site web du podcast. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui avec quelqu'un qui est déjà passé dans mon podcast. On est toujours dans cette phase de Covid-19, un peu bizarre, confiné, déconfiné. Donc on fait toujours les épisodes à distance. Et mon invité du jour, c'était l'invité de l'épisode numéro 8. On était en novembre 2017, je venais de lancer mon podcast et elle avait généreusement accepté mon invitation. C'est Monica Henley. Salut Monica.
Salut Adrien, comment ça va?
Ça va très bien, et toi?
Écoute, je suis de très bonne humeur aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, parce que je suis toujours à moitié confinée. Enfin, pas vraiment confinée, je dirais pas déconfinée, mais almost déconfinée, et il y a du soleil à Paris, et les choses commencent à
bouger,
commencent à s'améliorer, tu vois. Donc, ça va. Et toi?
Écoute, moi, ça va très très bien, et en fait si je t'ai proposé de revenir sur Entreprendre dans la mode, c'est parce que j'avais envie de prendre un petit peu des nouvelles, savoir ce qui s'était passé depuis notre premier épisode. Est-ce que tu peux nous dire dans les grandes lignes qu'est-ce qui s'est passé pour toi depuis fin 2017?
Quelles sont 2017. Tes actus?
Ouais, qu'est-ce deux, que trois j'ai ans fait en arrière, ouais.
Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie depuis 2017? J'ai gagné plein de rides. Je me suis mariée.
Ouais, c'est pas mal. J'ai... T'as un nouveau nom de famille. Ouais.
Enfin, j'en ai deux maintenant, tu vois.
Ouais.
C'est sympa, on peut choisir.
Exactement. C'est vrai qu'en plus, je t'ai appelée Monica Henley, alors que c'est pas Monica Henley maintenant.
En vrai, c'est très très long, c'est un peu ridicule. C'est Monica Henley de la Verdière. Et du coup, je laisse les gens choisir parce que franchement, ça fait beaucoup. Et aussi, parce que toi, tu parles très bien anglais, mais en général, les Français ne savent pas prononcer Henley. Et ils disent souvent Henley. Et les Anglais ne savent pas prononcer du tout de la Villardière. Donc, j'ai deux identités, si tu veux.
Très bien, tu t'es mariée, ouais.
Mais je suis toujours moi, et je présente toujours le podcast Fashion No Filter avec ma chère Camille Charrière. Et on s'est lancé dans les épisodes live un peu, notamment à Copenhague, il y a quelques mois, ce qu'on adore faire parce que c'est super interactif avec les audiences. Mais je suis bavarde, vous le savez par le podcast peut-être, mais du coup, je me suis vachement lancée dans les vidéos aussi. Donc, je crois que quand on s'est parlé, je venais juste de tourner un documentaire pour Paris Première que j'ai présenté. Et là, je présente des vidéos pour le Elle France qui s'appelle Ask Monica. La série s'appelle Ask Monica. Et en gros, les gens, ils me posent leurs questions de mode et j'essaie de trouver des réponses, en fait, de trouver des bonnes tenues et de l'inspiration. Et je vais aussi... on va lancer aussi cet été. Bon, ça a été un tout petit peu interrompu, le tournage, par le Covid, malheureusement. Mais une autre série sur les iconiques de la mode, où on va aller... On a eu de la chance. Il y a pas mal de grandes maisons parisiennes qui ont accepté de nous laisser venir tourner chez eux. Donc, j'en suis ravie. Par ailleurs, bah, j'écris aussi en anglais, hein, j'écris, mais j'essaie de continuer à écrire parce que c'est quelque chose de, que j'adore, même s'il faut fermer sa bouche et se concentrer. mais j'écris toujours des articles, là notamment récemment pour le Vogue anglais un peu pour CNN Style aussi. Donc, je suis assez occupée et j'ai aussi bien sûr mon compte Instagram qui continue où j'essaie d'avoir un ton un peu décalé, d'être honnête aussi sur notre industrie, bah, comme dans le podcast, comme partout, j'espère. Je suis aussi une passionnée de mode, je pose des tenues comme tout le monde qui adore la mode. Et voilà, il y a du lifestyle. J'essaie d'écrire aussi, j'essaie de réfléchir à ce que je mets dans les légendes parce que ça fait partie de ce que je fais et de ce que j'adore. J'aime bien les dialogues, donc j'essaie de me concentrer sur ça un peu aussi. Mais on me dit souvent que tout le monde s'en fiche totalement et que en fait c'est la photo qui compte. Donc j'essaie quand même de garder ça en tête. Voilà.
Comment tu te définis, Monica? Tu es toujours journaliste de mode.
Écoute, je suis journaliste de mode. J'ai fait mes études en journalisme. Je suis spécialisée en journalisme broadcast international. Et après, je me suis lancée quand j'ai commencé à travailler dans la mode, ce qui était ma passion, et j'ai eu de la chance de marier les deux. Mais bon, je suis aussi influenceuse et ça, c'est quelque chose que j'adore. On pourrait dire que ça fait partie des manières modernes de communiquer sur un tas de choses, mais surtout sur la mode. Et moi, je pense que... Bon, alors, ça a été une vraie question pour moi de savoir si c'était vraiment possible d'être à la fois un journaliste et influenceuse, parce qu'il y a des gens, peut-être ils sont old school, peut-être ils sont méchants, mais ils ont peut-être d'un côté raison, qui disent que, certes, si on est influenceur, on risque d'avoir son point de vue en tant que journaliste objectif un peu compromisé. Pour des raisons qui sont, je pense, très claires pour tout le monde, parce que nous, les influenceurs, on a de la chance.
Mais la réalité, c'est que les journalistes, c'est pareil. Enfin, les journalistes aujourd'hui, enfin, la presse, quand tu vois l'état de la presse...
Dans la presse mode, surtout, bah, enfin, pardon. À part, je vais citer ma copine Lizzie Payton, Elizabeth Payton, qui écrit pour le New York Times, qui est une génie. Elle n'a pas le droit d'accepter des cadeaux. Hein. C'est le New York Times. Les règles sont pareilles pour tout le monde. Hein. Et même quand elle cherche une stagiaire, elle ne va pas avoir une stagiaire qui est influenceuse. Et je la comprends. Et elle est venue me voir l'autre jour. Elle m'a demandé, parce que comme elle sait que j'ai toujours eu que j'ai le pied dans les deux camps, pour me demander mon avis là-dessus. Et je lui ai dit, mais Lizzie, mais bien sûr que tu as raison. Parce que t'imagines si les reporters du New York Times qui nous parlent de la politique américaine commencent à accepter des cadeaux du président Trump, on est vraiment emmerdés. Hein. Je peux comprendre des règles comme ça. Après, je pense que dans le néo-journalisme moderne, comme toi et moi, on est en train de faire... Voilà, je trouve que ça peut aller hand in hand, soi-disant, avec un grand compte Instagram où je fais mes petits mes reviews, où je raconte ce que je pense de telle ou telle collection.
Façon de se réinventer aussi quand t'es journaliste, quoi.
Mais bien sûr, mais aussi, moi j'adore. Moi, je te cache pas, hein, une seconde, j'adore essayer les vêtements. Ça fait partie du truc et du coup de pouvoir le faire. En plus de dire ce que je pense de la collection de loin, enfin ça c'est un bonheur. Donc voilà, j'ai de la chance et je porte mes deux chapeaux avec fierté.
Voilà. Carrément. Depuis 2017 aussi, tu as, alors je sais pas si c'était le cas à l'époque, mais tu as une agent qui est Delphine Delval de Pool Creatives qui passe régulièrement sur Entreprendre dans la mode et qu'on adore et qu'on salue. On t'embrasse, Delphine.
You better be listening.
Bah écoutez, c'est sûr. Mais explique-nous ce choix, ce move. Est-ce que c'était le cas? Est-ce que tu avais un agent avant? Et pourquoi tu as décidé de te faire accompagner à présent? Et surtout, peut-être, est-ce qu'on peut comprendre comment elle t'a aidé dans ta carrière, quoi? Qu'est-ce que ça t'a permis de faire?
Ah, mais Delphine, je suis comme les sportifs. Tu vois le film Jerry Maguire des années 90. je dois tout à Delphine, c'est ma vie. Non, mais Delphine, elle est géniale parce qu'en fait, elle est pas que agente qui prend son pourcentage. C'est pas une bookeuse. Mm. Avec no offense aux bookeuses qui font leur travail très bien pour les mannequins, mais c'est pas une bookeuse qui est juste là pour faire augmenter le prix et pour ses intérêts financiers. Elle est vraiment là. C'est un peu aussi une manageuse. Et ce qui est intéressant chez Pool, dans son agence, c'est que déjà, c'est transatlantique, donc c'est New York et Paris. Ce qui est cool pour moi, étant non-américaine en France. Déjà, ça c'est quelque chose, hein, parce que je rentre souvent en Amérique du Nord aussi. Voilà, j'aime bien avoir mon pied là-bas. C'est my people, tu vois. Mais aussi, ce qui est cool chez Pool, c'est que tu as des photographes, des artistes, toutes sortes de créatives, c'est que des femmes, hein, qui sont accompagnées par Delphine. Maintenant, on est tous un peu influenceuses aussi, c'est-à-dire qu'on a tous, il n'y a pas un autre mot pour le dire, on a tous un profil, pas mal de followers, un profil sur les réseaux, donc ça fait partie de l'histoire parce qu'on fait forcément des collabs avec des marques. Mais elle est très investie aussi dans l'autre côté de ce qu'on fait. Donc, il y a une créatrice de bijoux hyper talentueuse. Donc, en fait, là-dedans, ce n'est pas l'agent d'influenceur pur et simple qui pense vraiment que à la pub que tu vas faire pour une marque en one shot et son pourcentage. Elle est vraiment là pour cultiver. Elle est présente. Elle est aussi à fond dans mon podcast avec Camille. Elle nous représente vis-à-vis des pubs, des marques qui veulent sponsoriser des épisodes. Donc, franchement, j'ai eu énormément de chance qu'elle s'est intéressée à moi aussi et je suis fière d'en faire partie.
C'est clair, c'est clair. Et juste dans ma question, je te demandais aussi quel move vous avez fait, quoi, quel mouvement stratégique vous avez fait, si tu peux nous en partager quelques-uns. Alors, pas nous dévoiler toute la stratégie, Monica, nous donner 2-3 pistes, tu vois, je trouve que c'est intéressant.
Nous, on est des artistes, hein, Adrien, on n'a pas de stratégie. Tous les matins, on se réveille. Et on se dit, bon, alors aujourd'hui, on va faire quoi? Comment? Non, la stratégie, bon, ça va te paraître tellement cheesy, mais la stratégie, c'est d'être moi-même parce que, en fait, c'est comme ça qu'on sélectionne ces filles. C'est des filles très individuelles, très uniques. Et en fait, je pense que, au lieu de dire, là où elle est très forte, c'est que, au lieu de me dire, bon, voilà, on va regarder les filles qui ont 700K followers. Donc, comment elles font? Donc, bon, déjà, mets-toi en maillot. OK, c'est bien. Perds 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos. Très bien. Les cheveux un peu plus blonds. OK, des likes. Tu vois, non, mais je suis convaincue qu'il y a vraiment des agents qui te font ça. Elle, c'est...
Ouais, c'est clair.
Alors, t'es qui par rapport aux autres? T'es qui? Donc, toi, t'es journaliste, t'es présentatrice, t'es bavarde, t'as plein de choses à dire. Moi, je suis... j'ai plein d'opinions sur autre chose que la mode. Je suis assez political, honnêtement. Elle m'a jamais dit en fait Monica vaut mieux fermer ta gueule sur tout ça. Donc c'est pour ça aussi que ça marche, parce que j'ai vraiment l'impression de connaître des succès grâce à Delphine et aussi j'espère de temps en temps grâce à mon propre travail, mais sans me compromiser, et elle m'a jamais fait sentir qu'il fallait que ce soit le cas. Et honnêtement, là un petit info que je dis pas à tout le monde, moi j'ai bientôt, enfin j'ai 99K, bientôt 100, mais j'en ai pas 800 000, hein, j'en ai pas 900 000. Je pense pas que ce soit ça qui compte. Je travaille avec les marques que j'ai envie de travailler avec. Aujourd'hui, il me manque rien, franchement, parce que les audiences, c'est avec beaucoup de respect pour les filles qui ont construit des énormes audiences pendant des années, hein, et ça compte pour quelque chose, mais c'est juste différent. Je pense que les marques qui cherchent, souvent des marques françaises, qui cherchent communiquer directement avec, avec des audiences, une certaine audience, ils sont très contents d'être dans le micro-influence, comme on dit, je ne pense pas, enfin, je connais des influenceuses avec plus et moins de following. Ça fait pas une énorme différence vis-à-vis des marques qui t'approchent. Après, ça se trouve que, en fait, je dis n'importe quoi, il y a des filles qui vont s'acheter des châteaux à Beverly Hills l'année prochaine, et moi, j'en ferai pas partie, mais voilà. C'est ça mon analyse.
Je trouve que ce qui est hyper intéressant, et ce qu'on peut retirer finalement pour tout le monde et tous les gens dans l'industrie, que tu sois créatif ou créateur, etc., c'est be yourself, quoi. C'est toujours le même adage. Sois toi-même, parce que toutes les autres personnes sont prises, quoi. Et cultive ta différence.
C'est ça. Mais be yourself, let your freak flag fly, et pas une version de ton self qui est créé pour les réseaux, parce que ça se voit. C'est transparent.
Ouais, c'est clair. Aujourd'hui, c'est sûr. Aujourd'hui, tout le monde a un détecteur à bullshit très, 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 très aiguisé et très connecté.
Et by the way, je dis pas ça pour suggérer que quand je me réveille le matin, j'ai pas des cernes et que je vais attendre 2-3 heures pour poster une photo, hein. On est d'accord. On va être self, je veux être honnête, je poste une photo de moi même où je me trouve bien, évidemment, c'est une évidence, mais c'est plutôt un truc de personnalité. Je pense qu'il faut pas se bloquer, il faut être honnête. Voilà.
Trop bien. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on parle aussi de l'épisode qu'on vient de traverser, cette crise du Covid-19. Moi, j'aimerais bien comprendre, toi, quelle était ta réaction à ce confinement, comment tu as vécu ce confinement, comment ça a impacté ton activité de journaliste, d'influenceuse, de podcasteuse aussi, de slasheuse, quoi. Comment t'as vécu cette période-là, et qu'est-ce que ça va changer pour toi? Là, je te pose plein de questions, hein, mais réponds peut-être aux premières questions. Hein. Comment t'as vécu ce moment-là, et quel a été l'impact sur toi et ton activité?
Alors, déjà, du point de vue émotionnel, je suis passée par des étapes de choc. Je pense que j'étais d'abord dans le déni. J'étais partie à Milan pour Prada sans me poser de questions, comme si rien ne l'était. Je m'en souviens, juste avant de partir à Milan, il y a mon mari qui m'a dit « C'est drôle, Monica, t'as pas l'air inquiète pour le Covid alors que tu vas chez le médecin, mais trois fois par mois, t'es vraiment complètement parano. » Et là... Et c'est vrai que, bizarrement, j'avais pas compris, enfin, où j'étais dans le déni. Après, je pense que quand on nous a confinés, je suis passée vite fait par la colère. Ça m'a énervée. Ça m'a énervée, moi qui adore les gens. Voir des gens discuter, débattre, enfin, voilà. Ça m'énervait, j'étais frustrée. Après, j'ai dû passer par l'acceptance. Mais l'acceptance de courte durée, parce que suivie par une légère crise de claustrophobie. Tu peux demander aux gens avec qui j'étais en confinement. Mais par contre, dans le travail, en fait, je peux séparer vraiment ça en deux, parce que travail de journalisme, en fait, ça allait. J'ai eu des choses... On m'a même demandé des articles, on m'a demandé des vidéos, donc ça allait. Chez les influenceuses, c'était pas financièrement, c'était pas la folie. Par contre, je trouvais que c'était vraiment le moment de communiquer avec mon audience, enfin mes followers, parce que franchement, les gens ils passaient énormément de temps chez eux, ils avaient envie de communiquer, de rêver, voilà, mais il fallait trouver le bon ton. Et c'était un peu compliqué. Et en fait, j'ai écrit tout un article là-dessus pour le Vogue anglais, parce que au début du confinement, effectivement, ça se trouvait que tout le monde se posait un peu la même question. Et dans l'article, si vous voulez, il est toujours dans mon bio sur Insta, le lien. Enfin, j'avais vraiment pas la réponse, et c'était pile au moment où Ariel Charnas, la blogueuse américaine, elle a eu un vrai, enfin, il y a eu des scandales autour d'elle et la manière dans laquelle elle communiquait par rapport à. Parce que ça se trouvait qu'elle avait le Covid, mais du coup, elle est partie aux Hamptons avec la nounou et elle embrassait ses enfants et le filait à son mari. Et elle réussissait à avoir un test pour savoir si elle avait le Covid, ce que personne n'avait à New York à l'époque. Mais comme elle avait énormément de privilèges, elle connaissait des médecins. Alors voilà. Et du coup, mais c'est pas ça, c'est qu'elle en parlait, enfin, elle s'en rendait justement pas compte des autres. Mais ça m'a permis de réfléchir, parce qu'en fait, nous, les influenceurs, on est là pour faire quoi? Pour faire rêver, pour inspirer les gens, pour parler de la mode, pour être honnête. Mais il y a une ligne, et il y a beaucoup de gens célèbres, juste en général, qui ont vachement offensé des gens à cette époque-là, au début du confinement, parce que ils avaient l'air de dire que c'était dur, alors que les différences de circonstances n'ont jamais été aussi... autant souligner, enfin, toi et moi, on était en train de discuter, désolé, I'm blowing your cover here, mais qu'on avait tous les deux énormément de chance d'être à la campagne. Voilà. Et, par rapport à Madonna, mais elle aussi, elle était en stress. Ça n'empêche que tout le monde était en stress, mais il fallait s'en rendre compte, que il y avait des gens dans des circonstances bien moins sympas que les nôtres. Donc je pense que c'est là où il fallait pas juste montrer du lifestyle porn comme d'habitude, parce que c'était quand même beaucoup moins apprécié. Et donc
Et qu'est-ce que t'as fait, toi, alors, pendant cette période-là? Comment t'as fait pour communiquer, parler et ne pas être dans un côté insane, quoi?
Moi, au départ, je ne savais pas du tout quoi faire et j'ai dû faire des gaffes, comme tout le monde. Et après, je me suis dit, non, il faut parler de choses... on peut parler d'amélioration de soi-même, de projet, etc. Mais il faut que ce soit absolument quelque chose que tout le monde puisse faire. Voilà, déjà. Il ne faut pas que ce soit circonstanciel. Donc, par exemple, j'ai ma coach, ma gourou de fitness, ma coach de pilates qui m'a changé la vie. J'avais que des problèmes de dos, etc. Et qui m'a vraiment beaucoup aidée. Depuis 2017, je suis ses cours, qui s'appelle Julie Pujol-Benoît. Qui est journaliste fitness OL aussi, qui nous a fait, et c'est vraiment le meilleur cadeau de la Terre, sur son Instagram, elle a fait des cours en live un jour sur deux pendant tout le confinement, sans demander quoi que ce soit. Elle n'a pas été payée. Non, mais c'est du... C'est tellement sympa et ça nous a sauvé la vie. Et à la fin du confinement, on était au moins 4000 personnes à suivre ces cours. Donc, je me suis dit, bah tiens, ça, il faut que je parle de ça. Et bon, en même temps, il y a une photo de moi, comme les gens, ils ont d'habitude. Peut-être dans mes affaires de sport. J'ai aussi fait... plusieurs posts. En fait, je collectionne, je suis méga fan de pyjama. Enfin, c'est vraiment con, hein, ce que j'ai fait, mais bon, ça, tout le monde était en pige. Et du coup, j'ai montré des idées de style de pyjama à porter jour et nuit. Bon, il faut se changer à un moment, mais à la maison pour rester chic et avec un minimum de
circonstances.
Toutes circonstances. J'ai fait quoi d'autre? J'ai aussi essayé de parler un petit peu plus que d'habitude de culture, donc de bouquins et de films que j'adore, que d'habitude, les gens, de toute façon, ils n'ont pas le temps de suivre ou de voir, ou peut-être ils s'en fichent totalement de ce que j'aime bien, mais voilà. Donc, j'ai élargi un peu les sujets. Et ce que je n'ai pas fait, c'est que je n'ai pas fait de post où j'ai essayé de ne pas faire de post où je montrais des choses qui me rendaient différente que les autres parce que j'avais de la et je pense qu'il y a pas mal de gens qui étaient vraiment déconnectés. Bon, après, j'étais pas non plus... Enfin, il y a quand même des photos où je me promène dans un jardin, mais je dis, bon, je trouve... Et il y a des gens qui ont répondu qui étaient pas contents. Mais moi, je trouvais qu'en fait, si, dans les limites du possible, si on pouvait aller faire un peu de sport dehors, respirer un petit peu et réfléchir sûrement, c'était quand même important pour la santé... mentale. Et j'avais peur pour ma santé mentale. Au bout d'un moment, comme je t'ai dit, je suis passée par les stades de psychose, de confinement, et j'avais peur pour les autres qui étaient vraiment dans 20 mètres carrés. Heureusement qu'on avait toujours le droit de... Parce que je suis d'accord avec Macron et Édouard Philippe et tout le monde, il fallait vraiment faire à fond le confinement. Mais bon, heureusement qu'ils nous laissaient quand même avec attestation notre heure de promenade, parce que sinon,
devenir dingue, ouais.
Dingue. Donc, je voulais montrer ça. Mais bon, après, j'étais... Voilà, on était tous perdus hein, sur les réseaux. Et je ne dis pas que j'ai fait mieux que les autres, mais j'ai fait de mon...
Et c'est une période où tu sens que tu as gagné des followers, tu as gagné de l'engagement, le fait d'être...
J'ai pas forcément gagné des followers. Enfin, tu sais, en vrai, je gagne des followers quand il y a quelqu'un d'autre qui parle de moi. Donc, si j'ai contribué à une publication, un magazine, un machin, soit je suis dans une vidéo pour
moi. Oui, il n'y a pas de secret.
En fait, c'est ça. Mais j'ai énormément, très bonne question, et j'ai énormément gagné en engagement, en engagement, parce que bah, ça, c'est, après, c'est simple. C'est parce que les gens, ils étaient plus sur leur téléphone. Mais est-ce que, alors, donc, je me suis dit ça pendant une semaine ou deux, et après, je me suis dit, non, il y a quelque chose qui est en train de prendre place, c'est que on est en train de, on a tellement besoin de la connexion, de connecter en tant qu'être humain, que tout d'un coup, on est plus, on est vrai, on a vraiment envie de créer des dialogues. Et j'ai des gens qui, moi, je, by the way, moi je vois qui me suit. Je reconnais qu'il y a des filles et des garçons de temps en temps qui me suivent depuis longue date. Je connais les noms et mais c'est pas des gens que je connais, que je connaisse. Et qui me suivaient depuis un moment, qui se mettaient à me répondre, à me parler. J'essaie quand même de répondre quand je peux à des messages directs. Et il y avait pas mal de ça. Et ça, je trouvais ça sympa. Hein. J'avais fait un post sur... pour essayer de nous faire monter le moral un peu. Bon, on est confinés, mais ça veut dire... niveau skincare pour la peau, produits de beauté, on va juste mettre de la crème, on n'a pas besoin de se maquiller pendant au moins un mois, c'était au début, et imaginez comment on va avoir des jolies peaux claires à la fin du confinement, et j'ai eu énormément de gens qui m'ont répondu, donc c'était de rester positive aussi, je pense, qui a fait monter... le taux d'engagement, le fameux taux d'engagement. Mais c'était sympa, ça.
Ouais. Alors, d'après toi, comment ça va changer ton métier, cette période-là ? Est-ce que tu penses que ça va reprendre, là, ça va repartir comme en 14 ? Parce que bon, finalement, les marques, elles ont quand même besoin de communiquer, elles ont besoin de vendre de leurs produits, elles ont besoin de... Ouais. De créer de l'awareness, etc. Donc, il y a un moment où elles vont refaire appel à vous massivement, en tout cas aux femmes d'influence, et aux influenceuses et aux journalistes, etc. Mais comment toi, tu vois les choses arriver alors déjà pour la partie, pour ta partie, voilà, pour toi, mais aussi pour l'industrie, parce qu'on parle, toi, tu couvres souvent les Fashion Week. Là, cette année... y a plusieurs Fashion Week qui sont annulées, on parle de Fashion Week en mode digital. Comment tu vois les choses? Comment ça va se passer? Est-ce que tu as deux, trois informations intéressantes à nous partager là-dessus?
En fait, je pense que j'ai deux analyses là, parce qu'en fait, il y a un côté de moi, il y a une partie de moi, un côté de moi, de ma personnalité qui a beaucoup d'espoir, qui me dit, je me dis vraiment, les choses vont un peu changer dans la bonne direction, de la bonne manière, en fait. On va voir que les choses qui devaient se calmer vont se calmer. Et de l'autre côté, je suis assez réaliste. Et... je crains, bon, ça va pas être totalement pareil, mais je crains que ça va être business as usual. Et tu sais pourquoi, Adrien? C'est parce que les gens et les boîtes, ils veulent faire tourner l'économie, gagner de l'argent dans la manière, de la manière qu'ils savent le faire. Enfin, on va. Bon, une marque, oui. Écoute, elle peut essayer de trouver d'autres manières. Écoute, il y a une étude sur Tagwalk, le site absolument super d'Alexandra Van Hout, qui a trouvé que... Attends, tu sais quoi? Je vais l'ouvrir, je vais te le lire. Parce que j'ai envie de le citer tellement c'était intelligent.
Il faudrait que je la contacte aussi, Alexandra. Ça fait elle était passée dans Entreprendre dans la mode il y a très 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 longtemps. J'aimerais bien avoir une petite update de son activité parce que ça a bien grandi.
Voilà, donc là, elle s'est mise à essayer de comprendre ce qui allait se passer. Et en fait, là où on en était, déjà avant le confinement dans l'industrie, parce que moi, je peux te dire un truc de point de vue personnel, c'est que le dernier Fashion Week, et déjà, je ne crache absolument pas dessus, j'ai énormément de chance. Mais j'ai des jours, des journées où j'ai dû me changer 6 fois. Pourquoi ? Parce que ce sont de très grandes maisons, j'ai de la chance qu'ils veulent m'habiller, de tête à pied, ils défilent tous les mêmes jours. Si on ne met pas le look que j'ai choisi hein, du lookbook en avance, mais bon, les RP qui sont mes amis, avec qui j'adore travailler, sont énormément déçus. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire par là ? Quand je porte 5-6 looks par jour, bah, je suis en train de dire aux gens qu'il faut consommer mais un maximum. C'est ça mon message, mais c'est pas le message, ça a jamais été le message que j'ai cherché à transmettre. Enfin, ceux qui me suivent sur Instagram vont le savent très bien. Moi, je suis du genre à mettre le même jean Levi's avec. Après, je suis totalement dans le luxe. Je le sais. J'ai mon sac Chanel, c'est super. Je le remets. Mais je suis très chemise blanche, jean bleu à moi. Et c'est pas du tout ce que je cherche à suggérer à mes amis, à mes chers amis d'Instagram ou qui me suivent sur le L ou sur Fashion Week Twitter ou quoi que ce soit. Ça a jamais été mon message. Mais comme j'ai l'énorme chance d'avoir des grandes maisons qui veulent, ou des petites marques absolument géniales de jeunes créateurs qui s'intéressent à moi, bah, je vais pas dire non. Mais est-ce que, quelque part, on n'est pas déjà en train d'annuler tout message important que, ok, moi j'adore... Voilà, moi j'adore mes pompes Miu Miu parce que le jour où mes followers ont vu toutes les autres marques de la Terre défiler sur mon Insta une par une pendant la Fashion Week, ils en ont marre. Je vois très bien qu'il y a 1000 fois moins de likes et d'interactions, mais vraiment. Et ça ne sert plus à rien, enfin, même pour les marques, ça ne sert à rien. Donc, il faut repenser, enfin, il faut vraiment qu'on réfléchisse à une autre manière. En même temps, c'est pas que j'ai pas envie de représenter ces marques et que j'assume pas totalement que le street style est super important. Mais peut-être je pourrais partir de chez moi le matin avec peut-être des choses de chez Miu Miu et un sac Chanel. La chance, trop bien. Mon jean Isabelle Marant que je kiffe. Et ne pas rentrer chez moi une seule fois de la journée, parce que je ne suis pas une Barbie, et prendre mon micro et avoir le temps de faire du reportage pour Fashion Week Twitter. Enfin, ça serait quand même génial. Mais pour l'instant, et je ne suis pas la seule, enfin, il y a des filles qui sont beaucoup plus connues que moi, qui ont 1000 fois plus de pression pour tout ça. Je ne vois pas comment c'est intéressant pour le client. Parce qu'il y a trop de bruit. Et du coup, les marques sont en train de s'auto-bouffer. Ça se dit pas trop en français, je pense, mais voilà. Donc là, tout ça mène à que je te lise les résultats de cette étude Tagwalk que j'ai trouvé absolument géniale. Et elle a fait ça sur son Instagram au départ et il y avait 800 personnes qui ont participé. Donc, bref. Donc, c'est en anglais. Je vais te le lire en anglais et si tu veux, on peut traduire. Donc, elle dit, Are you influenced by street style? 71% des gens disent oui. Do you follow street style trends or runway trends? 70% des gens disent oui au street style. Donc, c'est important. Après, elle dit, If there are no fashion shows, what would be a different way of doing street style? Street style shouldn't be dependent on shows, les gens ils disent. Ils répondent ça, des gens qui participent. Genuine street style in everyday life. Real life in the street. Home styles. Real cool people in their everyday lives, what people actually wear when they get up in the morning, more authenticity, like Bill Cunningham. Ah là là, mais je suis tellement d'accord. Bill Cunningham, RIP. Je veux aussi parler vite fait de Scott Shuman. C'est un ami, mais franchement, j'ai énormément de respect pour ces alias The Sartorialist. Moi, je suis son blog depuis le début. Et franchement, pardon, il y a quelqu'un d'autre, il y a une autre femme en colère dans la rue qui crie. Je vais juste fermer la. Ok. Bah Scott, il a démarré, il est devenu très connu de Sartorialist parce que bah il croisait vraiment des gens dans la rue super bien habillés. Et il était un peu timide au départ, mais il les demandait s'ils étaient OK pour se faire prendre en photo. Et moi, je sais bien exactement comment ça marchait parce que j'en faisais partie, parce que j'ai eu l'énorme chance de le rencontrer très tôt dans ma carrière. Mais pas forcément devant un défilé. J'étais dans en terrasse de café à Paris et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés la première fois. Et j'avais mon pull et un jean. Mais il voyait quelque chose dans la manière dans laquelle je me suis... Enfin bref, je ne sais pas, je me suis habillée comme tous les jours, mais voilà. Je sais que c'est cliché de dire ça, mais c'est très important quand même qu'on revienne un peu à ça, parce que c'est ça qui inspire. Et c'est pas intouchable, c'est pas une tenue qui coûte tête à pied 10 000 euros. Enfin, c'est vraiment... C'est pas pour ça qu'on est là. Et donc...
Mais toi, t'as envie de ça aujourd'hui? Est-ce que parce que toi, t'es trentenaire et tu sens bien, tu le vois bien. Enfin, je pense que tous les gens autour de nous qui ont 30 ans ont envie de moins mais mieux, ont envie de revenir à un truc plus cool, plus sain, etc. Mais la réalité, c'est que les marques sont devenues tellement puissantes, tellement grosses, elles sont tellement engagées dans une course à l'échalote de toujours plus, de toujours faire plus de profits, de battre des records de ventes, etc. Parce qu'on est quand même là-dedans aujourd'hui. On est dans cette espèce de concours égocentrique des grandes maisons et des grands groupes de mode qui se disent bah, c'est moi le plus gros, c'est moi le plus fort, c'est moi le plus. C'est toujours plus, quoi. Et,
oui,
et le système est tout pété, quoi.
Mais là, en fait, comme le sujet est tellement grand, j'essaie de réduire ça à mes expériences à moi, en fait, parce que c'est là où je vais potentiellement être la plus intelligente. Est-ce que une grande maison parisienne, elle va mieux vendre son sac du moment parce que j'ai mis son sac avec mon jean et mon t-shirt pendant que je me promène dans la rue pour aller déj le samedi avec mon mec et il me prend en photo, le pauvre, il souffre, il doit le faire. Ou est-ce que ils vont vendre plus de sacs parce que j'ai aussi mis la robe forcément pour le photocall et j'ai aussi mis le chapeau et toutes les en fait je vais mettre 25 accessoires et en fait moi je suis pas sûre. Moi je pense, si je pense à mes cousines ou ma sœur ou mes amies qui ne travaillent pas dans la mode, je pense qu'elles vont pouvoir se voir plutôt avec ce sac si elle le voit en contexte de fille normale, pas en contexte de fille super, super sapée. Donc c'est pour ça que je dis ça. Après, bien sûr, je sais que les grandes marques, et j'ai beaucoup de respect pour ça, et pardon, mais ça fait tourner l'économie française aussi. C'est très important en France, et je sais que... il faut faire les chiffres et je connais la pression de mes amis les RP, mais je pense que je pense qu'il faut renégocier avec les big boss. Je pense que c'est les big boss qui mettent de la pression à top down et que en fait ils vont trouver que les ventes là pour le moment je pense qu'on va connaître un petit moment où tout va un peu moins bien, mais quand on aura fini de cette époque terrible, je pense que il y a une autre manière de faire et c'est plus responsable et Je pense que nous, en tant que communauté de gens qui communiquent par les réseaux, on est capable de le faire. Et je pense que la France a toujours été le pays, je vais le dire, leader de la mode. On a aussi des gens avec de très, très bons goûts ici. On a plein de gens qui aiment bien s'habiller simplement. Et je pense, mais avec énormément de chicness. Et je pense qu'on peut être le pays et la ville à Paris qui lance une nouvelle époque. Et ça va faire partie de cette nouvelle Fashion Week potentielle. Où c'est soit digital ou soit c'est pas, il n'y a pas de Fashion Week du tout. Bon, je ne vais pas dire que ça va que faire du bien, parce que je pense que par exemple il y a des pour l'économie de la France, bon, d'avoir énormément de gens qui viennent, qui dépensent, c'est la mode, on dépense sur les restos, les bars, les cafés, les hôtels, le truc, le machin. Bon, il y a ce côté-là qui est peut-être perdu et ça m'inquiète, mais il faut trouver la solution, parce que franchement, la Fashion Week telle qu'elle était, elle était un peu over the top, comme on dit. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Je suis désolée, je peux pas m'éviter de te demander.
Bah oui, t'es journaliste avant tout. qu'est-ce que j'en pense ? Je trouve que c'est... Je te rejoins sur beaucoup de points. Je veux dire, c'est sûr que la difficulté, c'est que on sait pas faire autrement, parce que le modèle... Ça fait 150 ans qu'on est, ou même 200 ans qu'on est sur ce modèle capitaliste où il faut grandir, grossir et aller toujours plus vite. Le sentiment que j'ai, je suis comme toi, j'ai envie de moins mais mieux. Je pense pas que les gens se réalisent vraiment en consommant toujours plus. Je suis pas sûr que ce soit très bon pour notre société de vouloir consommer à outrance. Et surtout, moi, j'ai le sentiment que je sais pas, il y en a il y a des gens qui se mettent trop d'argent dans les poches, quoi. Je veux dire, il y a un décalage entre les gens qui font les sacs à main et ceux qui sont à la tête des maisons, qui est trop important, tu vois. C'est vrai dans toute la société. Et c'est vrai dans toute la société, de l'hôpital jusqu'à ces grandes maisons. Et il y a un décalage qui est trop grand et qui fait qu'il y a une déconnexion de la réalité.
Mais pour moi,
un peu partout et sur les réseaux, quoi.
C'est le plus grand médecin de la France qui devrait être le mieux payé pour moi, mais ça, c'est mon avis.
Bah ouais. Donc, on a... Non, mais le système est pété, il faut se réinventer, mais en même temps, bon, voilà, on s'appelle Entreprendre dans la mode. Enfin, ce podcast, c'est Entreprendre dans la mode. A priori, quand t'es une entreprise, t'as envie de grandir, de grossir, etc. Mais tu vois, la vraie question, c'est ça, c'est est-ce que entreprendre dans la mode aujourd'hui, ça veut dire... monter une multinationale. Est-ce que récemment, là, j'étais avec Amélie Pichard que j'ai reçu ce week-end, et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui pensent comme ça et qui disent ok, moi je veux juste faire ce que j'ai toujours rêvé de faire, monter ma petite entreprise, faire des beaux produits, prendre le temps d'aboutir mes produits. J'aspire pas à devenir le prochain Gucci. J'aspire pas à devenir énorme, quoi. Je veux juste en fait faire les choses bien, prendre le temps. J'aspire pas à avoir 10 000 salariés. Et je pense qu'il y a de plus en plus de gens, en tout cas notre génération de trentenaires, j'ai l'impression qu'ils aspirent de plus en plus à ça et qu'ils ont plus envie de... Je sais pas, excuse-moi l'expression, mais c'est un peu un concours de bites, quoi. C'est à qui elle aura la plus grosse, quoi. C'est insupportable. Et donc voilà, moi je suis un peu là-dedans. C'est un peu mon avis du moment. Donc je te le partage.
T'as bien raison. Non, et juste, moi je te rejoins vraiment sur des petites marques, des petits créateurs. Non, mais il ne faut pas être une grande maison pour attirer de l'attention. Et je te dis sincèrement, les gens qui aiment vraiment la mode, moi, ça m'intéresse autant de découvrir quelqu'un qui fait vraiment bien leur travail, qui a un point de vue nouveau, unique, intéressant, tout ce que tu veux, et que c'est de la qualité, que c'est... fait d'une manière responsable, créé d'une manière responsable, locale. ah, mais ça, c'est tout ce qui m'intéresse, moi. Et je trouve que j'ai énormément de chance d'avoir de temps en temps des jeunes créateurs comme ça qui me contactent directement. Et c'est là où on peut critiquer les réseaux et tout ce que ça représente pour l'être humain toute la journée. Et je suis souvent d'accord. Par contre, un jeune créateur qui va être le prochain Jacques Mus, il peut m'écrire directement et moi, je peux avoir l'honneur de découvrir sa marque dans la journée. Enfin, c'est génial. Et donc, il ne faut pas perdre de l'espoir. Les choses qui sont bien faites, elles vont continuer à réussir. Et en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il y a trop de bruit autour. Et moi, j'aimerais bien qu'on retourne à un petit peu de respect pour du vrai craftsmanship, de l'artisanat. Il y a une tradition en France, mais de dingue. Pourquoi on est en train d'oublier ça? Non, mais c'est dommage, tu vois. Et si le Covid, non, mais c'est tellement cliché, encore une fois, il y a 15 000 personnes qui ont déjà dit ça, mais si le Covid va nous servir à quelque chose, moi, je pense que c'est ça. C'est, on a hit pause un peu. On a eu 2 mois pour réfléchir. Et nous, notre industrie, j'espère, et je dis encore j'espère parce que j'ai aussi mon côté cynique qui me dit, mais vraiment, Monica, tu crois vraiment que ça...
Réaliste.
Réaliste, disons réaliste, pas cynique. T'as raison. J'espère, je garde l'espoir et que on va pouvoir se concentrer sur ce qui compte. Donc, voilà.
Dernière chose. Après, peut-être pour rajouter ma réflexion à ce que tu dis là, c'est est-ce que, enfin, c'est peut-être à tout un chacun dans l'industrie. Et toi, t'es une influenceuse connue, reconnue, etc. Moi, à plus petite mesure, chacun doit faire sa part. C'est ça que je veux dire. C'est que si chacun d'entre nous, à notre humble niveau, on fait notre part et on parle de ces sujets-là, ou en tout cas, on agit différemment, ça permettra, si tout le monde fait sa part, encore une fois, on peut créer de grands mouvements et faire en sorte que les choses changent et que notre industrie ressemble à ce à quoi on veut que ça ressemble. Quoi.
On est tous responsables de notre manière il faut vraiment se dire, c'est à moi, je suis d'accord. Et même, c'est tout con, mais... Ce matin, je me disais, je remettais de l'huile que je mets souvent sur le visage le matin. Je me suis dit, tiens, c'est con, il y a des petites marques made in France, de beauté aussi, qui sont tellement sympas, qui vont voir pour tester leurs produits. Et j'en parle pas assez, mais j'en parle pas en fait, parce que le temps passe vite, je suis busy, je dois faire des tournages et au final, il y a des grandes marques qui m'appellent et il faut que je participe dans leur campagne et machin. Et après, il faut que j'interviewe, comme tu sais bien, d'organiser un podcast, ça prend énormément de temps. Et je finis par ne jamais en parler. Et du coup, j'ai lancé ce matin. Ma série Stuff I Actually Use. Et je vais parler de produits, de choses, de trucs que j'ai à la maison, que j'adore depuis des années, qui n'ont pas forcément la chance de paraître sur mon Insta ou celle des autres parce qu'on est débordé et parce que tout le monde pense aussi à un peu à sa gueule, parce que qu'est-ce qui va me faire manger? Ok, oui, c'est très important, mais il faut qu'on garde en tête, nous, les gens avec des followings, que les gens sont venus nous voir, pas pour voir quelle marque est capable de nous payer le plus pour apparaître sur notre feed. C'est aussi pour avoir nos opinions, nos produits préférés, nos petites marques de cœur qu'on a découvertes. Donc voilà, encore une fois, c'est à nous aussi de montrer tout ça.
Carrément. Trop bien. Voilà. Eh ben écoute, merci beaucoup pour ton partage d'expérience. Je ne sais pas s'il y avait d'autres sujets que tu voulais aborder avec moi, mais dis-moi, tu es la bienvenue.
Au sujet de ces grandes maisons françaises qu'on adore, pour lesquelles j'ai énormément de respect, je suis super contente parce que, donc, en plus de ma petite série de vidéos que je présente pour le Elle France Asmonica, je vais aussi, donc, on va se lancer dans ces vidéos, les iconiques. Et là, je vais vraiment pouvoir découvrir pourquoi certains sacs ou vestes iconiques de chez Dior ou Vuitton ou Longchamp sont d'une telle importance dans notre culture de mode en France. Et je vais aussi, j'espère, pouvoir partager ça avec des gens à l'étranger aussi qui veulent comprendre. Et je vais aller interviewer des artisans behind the scenes, dans les coulisses vraiment de ces grandes maisons. Et je pense que c'est important ça aussi, de respecter vraiment la manière et de fabriquer et la tradition. Et c'est ce qui compte vraiment. Donc, on va pouvoir mieux comprendre ça. Et pour moi, c'est aussi voire plus important qu'un défilé.
Donc, bien.
Je suis écoute, voilà. Je me fais un peu de pub aussi. Venez voir ça.
Ouais, t'as raison.
Le help.
Exactement. Et ben, je vous invite. Voilà. Je vous invite. On mettra les liens dans les notes de l'épisode pour que chacun puisse aller voir ce que tu fais, etc. Et trop cool. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Monica. C'était un plaisir d'avoir des news et de prendre le temps d'échanger avec toi, parce qu'on se croise de temps en temps, mais on prend pas forcément le temps de discuter longuement. Donc voilà, chose faite. Merci beaucoup et bonne continuation. Et puis, à très vite.
Merci, Adrien.
Salut.
Ciao.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, c'est simple. Allez sur le blog du podcast www.entreprendredanslamode.com. Aussi, si vous souhaitez me contacter ou me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez le faire sur Instagram sous le pseudonyme @entreprendredanslamode. Enfin, le plus important, laissez-moi un avis sur Apple Podcasts ou iTunes, 5 étoiles de préférence. Cela m'aide à faire connaître le podcast à plus de monde et m'encourage à faire de meilleures interviews. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.